Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour Turbine, émission produite par le Media Lab du WIP où nous enregistrons actuellement en différé. On remercie d'ailleurs Radio Pulse, la Station B et Radio Bazarnaum qui diffusent cette émission. Et aujourd'hui, comme vous vous en doutez, nous allons entamer la deuxième partie de ce mois dédié à la presqu'île de Caen en parlant du projet d'urbanisation, autrement dit de l'avenir. En effet, la construction d'un nouveau quartier au cœur de Caen ne passe évidemment pas inaperçue et soulève beaucoup de questions, car chaque canet verra son paysage et sa cartographie urbaine changer. Mais comme d'habitude, pour en parler, je ne serai pas seule, même si nous fonctionnons aujourd'hui en équipe réduite. Je suis en présence de nos chers chroniqueurs, j'ai nommé Pierre et Alain. Coucou.
Hello.
Bonjour.
Vous allez bien? De quoi vous allez nous parler aujourd'hui?
Alors moi, mon agenda culturel avec beaucoup de bandes dessinées.
Et moi, je vais vous parler de musique... pour ne pas changer comme mes habitudes, et puis je vais vous parler de deux musiques totalement différentes, vous allez voir, ça va être super sympa.
Ok, super, merci Pierre, et on fait un bisou à Alixia qui est à la régie aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour, bisous.
Et donc aujourd'hui pour vous parler de ce fameux projet de la presqu'île, nous avons comme invité du jour Nicolas Duvoyau, élu à l'urbanisation de la ville de Caen. Jingle. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien.
Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu brièvement, plus que cet intitulé d'élu à l'urbanisation de la ville de Caen?
Donc bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis maire adjoint à l'urbanisme à la ville de Caen, également vice-président en charge des mobilités à Caen-la-Mer. C'est mon deuxième mandat aux côtés de Joël Bruno. J'étais précédemment maire adjoint en charge du développement durable.
Ok, super. Alors du coup, pour commencer, pour faire un petit peu un récapitulatif, très brièvement, en quoi il consiste ce projet d'urbanisation de la presqu'île?
Il répond à un nouveau paradigme d'aménagement. On était dans les années 70, au cours des Trente Glorieuses, sur un modèle d'étalement urbain, un modèle de zoning. On avait la zone résidentielle d'un côté, la zone commerciale de l'autre, la zone tertiaire et les déplacements pendulaires étaient subis très largement automobiles, puisque c'était le modèle privilégié, et on était sur du grignotage de terres agricoles. Les modèles sont plus du tout les mêmes, on préserve les terres agricoles, on essaie d'avoir des zones qui soient complètement mixtes, et puis petit à petit, des zones industrielles, des industries se sont éloignées des centres-villes, et c'est notamment le cas sur cette presqu'île où on est sur une friche industrielle au portuaire, et tout l'enjeu c'est de pouvoir concevoir l'aménagement, le quartier, un modèle de ville du 21e siècle, donc qui va mieux respecter son environnement, proposer un autre cadre de vie aux habitants et répondre à ces nouveaux enjeux, notamment au changement climatique.
D'accord, ok. Donc vous parlez justement de nouveaux cadres de vie. C'est quoi pour vous un bon cadre de vie de façon générale?
Alors l'enjeu majeur qu'on a sur ce quartier presqu'île, c'est de pouvoir proposer en centre-ville, on est vraiment sur un quartier de centre-ville, ce qui peut parfois être recherché par des habitants qui sortent à l'extérieur de la ville, qui se sont périurbanisés, donc c'est une présence du végétal qui va être forte, notamment avec des linéaires de haies qui sont très importants, avec des espaces verts multiples, ça va être des espaces aussi de circulation très apaisés, avec des mobilités douces, des mobilités collectives qui vont être très largement favorisées, avec des zones de jardins, de parcs, de petites placettes entre copropriétés, entre différents types d'habitats qui vont être proposés aux habitants, une zone dans laquelle on peut laisser ses enfants jouer tranquillement, sans avoir peur qu'ils soient confrontés à de la circulation automobile permanente, par exemple. Donc c'est ça qui va créer quelque part un cadre de vie agréable. C'est un peu la la campagne en centre-ville, hein, même si évidemment on ne va pas être sur un modèle de développement à l'habitat individuel, on va être très très largement sur de l'habitat collectif, mais il faut qu'on puisse proposer des espaces publics qui soient très généreux. On est d'ailleurs sur ce projet Presqu'île en superficie à 60% d'espaces publics, ce qui est bien supérieur à ce qu'on peut voir en moyenne sur d'autres quartiers. On est, je l'évoquais, très largement sur l'habitat collectif, donc il faut que quand les habitants aillent sur un extérieur généreux, l'objectif c'est que chaque appartement puisse avoir un espace extérieur pour pouvoir mettre une petite table, un transat, un petit canapé. Mais globalement, le jardin des habitants sera l'espace public. Donc il faut qu'on arrive à avoir des espaces publics qui soient très attractifs.
D'accord, ok. On sait également que la Presqu'île, c'est une zone qui est classée Céveso, donc, c'est-à-dire c'est un site industriel présentant des risques. En quoi cela, ça impacte le projet et puis aussi, on parle également de la pollution des sols.
Alors, il y a plusieurs risques qui sont identifiés sur le secteur. Alors le risque qui est lié au Céveso impacte en fait l'extrémité nord de la Presqu'île, sur laquelle effectivement on va pas urbaniser tout de suite. C'est lié aux dépôts pétroliers, hein, qui sont sous le viaduc de Calix. En revanche, assez globalement, on retrouve d'autres risques sur la Presqu'île, à la fois des risques qui sont liés aux inondations, inondations de l'Orne ou submersion marine, et puis des pollutions des sols qui sont travaillées depuis de nombreuses années. Il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées. Et là aussi, l'objectif, c'est essayer de développer un modèle qui soit plus durable, qu'on ne soit pas systématiquement dans de l'extraction de terre et dans de l'envoi de terre en camion vers des centres de traitement. La question se pose sur chaque espace. Quel est l'usage de l'espace? Est-ce qu'il est compatible avec le sol en place? Et puis, quel est le traitement le plus approprié? Et on est en train de travailler conjointement avec la Presqu'île d'Hérouville et avec Mondeville, à l'échelle de la communauté urbaine d'ailleurs, une plateforme de traitement des terres polluées sur le site de la Presqu'île entre Caen et Hérouville pour éviter d'envoyer à des dizaines ou centaines de kilomètres sur des centres de traitement ces terres qui sont polluées. Mais le principe premier, c'est de savoir si le sol en place est compatible ou pas avec l'usage, ou alors de proposer un usage compatible avec les sols qui sont en place. Ce qui peut relier aussi le sujet du risque de submersion, c'est que sur certains espaces, on va être en remblaiement pour avoir une couche de remblai qui non seulement va protéger du risque d'inondation, mais va aussi éloigner l'habitant, l'enfant qui va être sur l'espace vert, des couches de sol qui sont plus polluées. Mmh. Donc il y a eu tout un travail qui a été très très fin de réaliser, avec comme objectif le réemploi, la réutilisation ou le traitement local.
D'accord, ok. Parce que c'est vrai qu'on rappelle que du coup c'est une zone qui est située entre l'Orne et le canal, donc déjà avec l'Orne, les marais et les choses comme ça, on connaît les risques. Donc il y a des choses, des dispositifs précis justement à ce sujet qui ont été mis en place.
Oui, bien sûr.
Au niveau, par exemple, de la construction de bâtiments.
Avant d'être une friche industrielle, c'était l'Orne méandrée sur cet espace-là. Quand on regarde d'ailleurs la frontière entre Caen et Mondeville, elle est complètement au travers de la Presqu'île. Mmh. Et en réalité, elle épousait un méandre de l'Orne. Souvent, les limites communales épousaient des fleuves, des contours de fleuves, donc ce qui permet de voir comment les fleuves ont évolué depuis quelques centaines d'années. Et là, effectivement, on a cette contrainte d'inondabilité du site, à la fois par l'Orne, mais aussi en cas de submersion marine. Donc c'est quelque chose qui est traité de plusieurs façons. On a déjà une transparence hydraulique de la Presqu'île. Aujourd'hui, quand on a une crue de l'Orne, on a potentiellement, sur les points bas, en cas de crue vraiment très importante, la possibilité que l'Orne se serve aussi du canal pour évacuer la crue. Donc il y a deux secteurs sur lesquels on va avoir des couloirs qui vont rester volontairement relativement bas pour qu'on ait une certaine transparence hydraulique et que la crue puisse s'évacuer. Puis on a d'autres secteurs sur lesquels on va être légèrement remblé aussi pour pouvoir avoir notamment des placettes, des cœurs d'immeubles, des rez-de-chaussée de parties communes d'immeubles qui soient au-dessus des côtes de plus hautes eaux. Donc c'est effectivement un sujet qui est traité à la fois en transparence et puis sur certains secteurs en remblai. Donc on a ce double enjeu, à la fois évidemment de préserver et de protéger, mais aussi de permettre un écoulement hydraulique sur cette presqu'île.
D'accord, ok. Parce que c'est vrai qu'on peut remarquer aussi, même dans d'autres endroits du centre-ville, que ça a été construit, pensé aussi en fonction des inondations. Je pense au bâtiment des 4 ans, qui sont construits avec les rez-de-chaussée en fait, qui sont pas habitables. Et donc il y a un risque d'inondation qui est quand même relativement élevé sur le centre-ville de Caen.
Et puis sur Saint-Jean, on peut le voir aussi. Alors les 4 ans est tout près de Saint-Jean, mais sur Saint-Jean, vous avez régulièrement dans les parties communes des immeubles, dès que vous avez passé la porte d'entrée, immédiatement après, vous avez 5 ou 6 marches. Qui permettent de monter et d'arriver sur un niveau de palier un peu plus haut. Donc on invente rien hein, en construisant des entrées communes de copropriété surélevées. On n'a rien inventé. En revanche, on adapte ça au contexte plus récent et puis aux hypothèses et aux perspectives qui sont données aujourd'hui par rapport à la potentielle remontée des eaux maritimes et puis par rapport à l'accroissement du risque d'inondation par les crues de l'Orne.
D'accord, ok, très bien. Et puis avant de nous retrouver pour cette interview, on va retrouver notre ami Pierre qui va nous faire sa chronique musicale habituelle. Oui. Ça va toujours Pierre ?
Bah oui, ça va toujours. Et là, donc pour cette semaine, je vous propose d'écouter encore une fois, car j'adore vous faire découvrir vraiment mes coups de cœur musicaux. Et aujourd'hui, je vais vous présenter en fait deux musiques totalement différentes en date et en style. Jingle.
C'est la rubrique de Pierre. C'est la rubrique de Pierre. C'est la rubrique de Pierre. C'est la rubrique de Pierre.
Trop bien. Ouais. Alors je vous propose pour la première partie de faire un bond en arrière de 78 ans. Et oui, le temps passe si vite, mais la bonne musique reste intemporelle. Mais à cette époque-là, en fait, à la radio, la voix n'était pas aussi claire et limpide que maintenant. Je me suis amusé du coup chez moi avec quelques effets micro pour appuyer en fait ce retour en arrière et vous présenter en même temps l'artiste de cette première partie. Ça donne ça.
Né le 1er mars 1904 à Clarinda dans l'Iowa, le compositeur et tromboniste Glenn Miller est l'une des personnalités les plus remarquables de la musique populaire américaine dont la réputation s'est forgée après sa mort. Il commença sa carrière de tromboniste en 1926, enchaîne plusieurs groupes avec quelques échecs et c'est en 1939 que sa carrière décolle. Il bénéficie d'une réputation internationale comme chef de Big Band. Pendant la guerre, il est promu au grade de capitaine. Il dirige alors le Glenn Miller Army Air Force Band, un orchestre de jazz et de danse militaire qui donne des concerts pour le moral des troupes.
Alors je vais vous parler du coup du tromboniste et compositeur Glenn Miller. Et en fait, il y a une particularité sur certains de ses morceaux. On appelle ça en fait tout simplement le son Glenn Miller. Et il est immédiatement en fait reconnaissable parce que la ligne mélodique principale est la plupart du temps jouée par les saxophones, dans laquelle en fait la clarinette joue la première voix. Cette configuration en fait qui est inhabituelle pour l'époque aurait été utilisée accidentellement à la suite d'une blessure à la lèvre du trompettiste qui devait jouer en fait la première voix de Moonlight Serenade. On écoute un petit extrait pour que vous puissiez vous rendre compte. Et du coup, on remarque bien que cette clarinette, en fait, nous apporte de la couleur et de la rondeur à ce thème. Mais mon morceau préféré de Glenn Miller reste tout de même In the Mood. Allez, ça va swinguer dans Bonjour Turbine.
Thank you.
et vous écoutez bien Bonjour Turbine dans cette émission dédiée à la presqu'île de Caen. Et l'on vient de s'écouter le titre In the Mood de Glenn Miller. Et nous sommes toujours en présence de notre invité, Nicolas Joyot, élu à l'urbaniste de la ville de Caen. Alors pour reprendre le sujet de la presqu'île, il est légitime de se demander en quoi va ressembler ce nouveau quartier, quels ont été les partis pris esthétiques de ce projet ?
Alors les partis pris en termes de volumétrie déjà, avant peut-être de parler d'esthétique, l'idée c'est qu'on soit sur un quartier qui ne va pas présenter une homogénéité totale sur les hauteurs par exemple. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, on sera très largement sur de l'habitat collectif. Néanmoins, on aura aussi de l'habitat intermédiaire, un peu d'habitat individuel et y compris sur l'habitat collectif. L'idée c'est qu'on puisse faire varier les hauteurs. Les bureaux d'études qui nous accompagnent ont d'ailleurs testé un modèle, une simulation de hauteur bâtie sur l'ensemble du quartier pour qu'on arrive à travailler le sujet du bioclimatisme, à savoir le confort d'été, le rafraîchissement naturel. D'accord. Pour éviter au maximum la climatisation qui ne fait que surconsommer de l'énergie et donc d'aggraver le problème contre lequel on souhaite lutter quand on la met. Donc l'idée, c'est qu'on arrive à travailler déjà des formes bâties qui répondent à des enjeux, notamment des enjeux de confort, mais également des enjeux climatiques. Une fois qu'on a parlé des volumes. À ce stade, on n'est pas encore allé plus loin sur le volet architectural. On est allé plus loin sur une méthodologie, mais pas sur un résultat. Oui. L'idée, c'est qu'on puisse proposer aux maîtres d'ouvrage qui vont venir travailler un cahier des charges architecturales et paysagers qui proposera certains critères auxquels les maîtres d'ouvrage, promoteurs, devront répondre avec leurs architectes. Tout ça passant devant l'aménageur, donc l'ASPL Caen Presqu'île, et avec un avis conforme de l'ASPL. De l'aménageur. Donc c'est quelque chose qui va se travailler de manière très partenariale sur la base d'un cahier des charges architectural et paysager. Donc on va vraiment être sur un travail partenarial. L'idée, c'est qu'on sorte des modèles classiques de la consultation à promoteurs où on demande à différents promoteurs et à leurs architectes maîtres d'œuvre de nous remettre une proposition avec déjà des visuels, avec déjà une offre financière sur le terrain. L'idée, c'est qu'on aille sur une consultation qui va nous permettre de monter en qualité et de proposer un autre visage que ce qu'on peut voir justement. Donc pour l'instant, on a établi un chemin, on n'a pas encore le résultat. Il se découvrira au fur et à mesure que la presqu'île va se mettre en place. Mais les deux grands enjeux, c'est de la cohérence, mais pas d'uniformité. Ça c'est très clair. Il faut qu'on puisse se retrouver au coup d'œil sur le quartier, qu'on puisse se donner rendez-vous au pied de tel bâtiment, tu sais, celui qui a telle couleur ou qui a telle forme, et pas qu'on soit au numéro tant de telle rue pour se donner rendez-vous. Pour autant, il faut de la cohérence. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va travailler notamment à travers le cahier des charges que j'évoquais.
Oui, parce que justement, on peut remarquer qu'il y a quand même des bâtiments là, à l'heure actuelle qui sont intéressants aussi sur la presqu'île, entre la bibliothèque, les âmes, le cargo, qui sont des bâtiments qui sont là quand même depuis quelques années, à part la bibliothèque qui est très très récente, mais qui ne tombent pas vraiment dans la désuétude, j'ai l'impression, qui se maintiennent plutôt bien comparé à certaines constructions qui, entre le temps où elles sont construites.
Alors la pointe presqu'île est encore toute récente, hein. Ça n'a que quelques années, mais effectivement, on a des programmes qui sont de qualité. Alors attention à ce que nous n'ayons pas non plus un amalgame entre ce qui s'est fait sur la pointe presqu'île, où notamment d'un point de vue économique, ces opérations-là sont sorties à des prix du mètre carré qui étaient très très élevés. L'objectif sur la ZAC du Nouveau Bassin, sur la presqu'île, c'est qu'on puisse avoir une mixité de population. On a 28% des logements qui seront des logements locatifs sociaux. On souhaite développer 20% de logements à coût modéré. Et puis la moitié du marché, l'autre moitié sera au prix du marché, sera plus libre. Mais on souhaite qu'il y ait au moins ces 28% de logements locatifs sociaux et 20% d'habitat à coût modéré. Donc d'un point de vue architectural, d'un point de vue du volume, on peut prendre comparaison avec la pointe presqu'île. Mais ce qui a beaucoup marqué les esprits, surtout sur la pointe presqu'île, ça a été aussi les prix de sortie, les prix au mètre carré, sortis par les maîtres d'ouvrage. Et on ne souhaite pas être sur ce modèle-là sur la presqu'île. On souhaite vraiment avoir une diversité de population sur la presqu'île. Presqu'île et que la Presqu'île ne soit pas réservée qu'à une certaine catégorie de population. Ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'on arrive à montrer aussi que la ville durable, elle est faite pour tout le monde et que tout le monde peut venir y habiter, que les différentes catégories de la population puissent trouver une place sur ce secteur-là.
Très bien. Et par rapport aux structures originelles, justement, les grues, les silos, tout ce qui en fait faisait l'identité de la Presqu'île, quel choix a été fait par rapport à ça ?
L'objectif, un des grands enjeux de base, c'était de conserver autant que possible la mémoire du lieu. Alors, la trame de voirie déjà va rester. Donc, on va rester sur une trame de voirie historique. Alors, historique de cette période industrielle et portuaire, évidemment. On ne va pas retramer les voiries. Et puis, le projet Presqu'île a été monté également en proposant une trame bâtie qui est complètement atypique. On n'est pas sur quelque chose qui est carré, rectangulaire, comme ce qui pourrait se faire sur d'autres sites en partant d'une feuille complètement blanche. L'idée, c'était que aujourd'hui, les pleins d'aujourd'hui deviennent des creux et les creux d'aujourd'hui deviennent des pleins sur les parcelles. Mmh. Autrement dit, quand on avait sur une parcelle un bâtiment au milieu de la parcelle et puis des grands espaces complètement libres ou de parking ou de stockage pour les besoins industriels autour, l'idée, c'est que demain, excepté certains bâtiments qui seront conservés, réhabilités, mais que globalement, les bâtiments soient démolis, ce qui va créer une sorte de cœur d'îlot très grand au milieu, et puis que le pourtour de ce cœur d'îlot soit construit, sans avoir forcément de travail sur le foncier, donc avec les formes de parcelles actuelles, ce qui va amener pour le travail architectural notamment une complexité, mais quelque part la qualité naît aussi de la complexité. On ne va pas être sur quelque chose qui va être complètement uniforme et complètement tramé. Donc par le cœur même du projet, sa trame bâtie et voirie, on garde le caractère historique. Et puis après, il y a des éléments un petit peu emblématiques, effectivement. Il y a les grues. On a aussi un bâtiment qui s'appelle le tunnel qui fait l'objet d'études pour une réhabilitation et qu'on travaille d'ailleurs avec le milieu associatif, sur lequel on échange avec le milieu associatif. Donc l'objectif sur des éléments emblématiques comme ça, c'est qu'on puisse en conserver la trace. Pour l'instant, la grue, on n'a pas définitivement acté un usage, on n'a pas définitivement acté une modalité de réhabilitation. Est-ce qu'on va être sur quelque chose qui sera repeint et laissé sans autre usage, ou alors est-ce qu'au contraire on aura un certain usage qui va s'y développer? On a pu voir dans certaines villes de France ou d'Europe que des grues pouvaient être proposées en nuitée parce qu'on arrivait à faire une chambre dans la grue, par exemple. Mmh. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore défini et arrêté d'usage. Néanmoins, on aura un enjeu effectivement de maintien de ce patrimoine, la grue ou quelques bâtiments qui sont emblématiques, ou alors la trame de certains bâtiments. On peut imaginer que certaines charpentes de bâtiments soient maintenues, soient végétalisées, même si la toiture et puis les murs du bâtiment sont abattus. On peut imaginer avoir un mini-parc entre différentes copropriétés sur lequel on aura maintenu une charpente, par exemple. Ce travail-là est en cours, mais l'objectif, effectivement, c'est de garder la mémoire du site. Et ça a été au cœur du projet urbain qui a été retenu, puisque c'est le projet urbain qui poussait le plus loin ce concept-là.
Mmh. Est-ce que vous avez envisagé, sur ces endroits comme les grues ou certains bâtiments où les artistes de rue avaient pris possession des lieux, et d'envisager de maintenir une mémoire artistique. Donc, par exemple, comme on a pu se faire à Nantes sur les grues des chantiers navals, les utiliser, les mettre aux mains d'artistes qu'on fait, à la fois ils maintiennent la mémoire et en plus ils y ajoutent un côté artistique.
Ça fait partie des possibilités, effectivement. On a eu différentes rencontres et on va encore avoir des rencontres aussi nombreuses que possible et souhaitables avec le milieu associatif qui est déjà présent sur la Presqu'île. Il y a un milieu associatif très riche, à vocation culturelle pour une très large majorité. Donc on est en échange avec ces associations-là pour essayer aussi très clairement de construire ensemble sur différentes temporalités un enjeu culturel partagé sur la Presqu'île, que la culture puisse être pleinement intégrée au projet urbain.
Puis on y reviendra justement tout à l'heure sur ces questions-là. Et du coup, par rapport aussi aux espaces naturels, parce que vous parliez justement de les exigences de la campagne dans la ville, et qu'est-ce qui a été du coup imaginé par rapport à ça ?
Ouais, j'évoquais effectivement que beaucoup d'habitants voulaient la campagne à la ville, ouais. Et puis à contrario, ceux qui portent à la campagne, ils veulent les services de la ville à la campagne. Ouais. Donc effectivement, on a des exigences qui sont parfois contradictoires.
Bah oui, c'est
l'objectif, c'est qu'on arrive sur ce projet Presqu'île à avoir une présence de végétal très importante. L'autre caractéristique du projet urbain qui a été retenu, c'est qu'il faisait le lien entre le renouvellement urbain de ce quartier-là et le bocage normand, en proposant notamment, sur les contours de parcelles que j'évoquais tout à l'heure, une systématisation de la haie bocagère, qu'on puisse avoir systématiquement de la haie bocagère qui puisse être présente. Donc elle sera très présente sur le quartier. Et puis autre élément qui va amener du végétal, on va être quasi intégralement sur de l'hydraulique douce. C'est-à-dire que pour évacuer les eaux pluviales, on ne va pas être sur de la grosse canalisation avec des avaloirs sur bord de trottoir, et on envoie tout systématiquement dans des canalisations. On va essayer de travailler avec des fossés, avec des noues pour pouvoir avoir du végétal apparent, ce qui d'un point de vue paysager est évidemment plus intéressant que du bitume, ce qui d'un point de vue gestion des îlots de chaleur est intéressant aussi. Puisque sur des journées qui sont les plus chaudes de l'année, qui sont de plus en plus nombreuses à l'avenir, avoir de l'hydraulique qui se gère en surface, avoir du végétal va permettre de diminuer la température ressentie sur l'espace public. Et je fais lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure, à partir du moment où on va avoir une grande majorité d'habitats collectifs, ça veut dire que le jardin des habitants va être l'espace public, donc il faut qu'il soit le plus confortable possible également. Donc la gestion en hydraulique douce va être un élément important. Et puis ces cœurs d'îlots que je pouvais évoquer, les pleins qui vont devenir des vides demain, vont être pour certains à usage qui nécessitera vraisemblablement du minéral, mais on souhaite aussi que beaucoup servent de jardin, de petits squares, de j'allais dire de quartier, mais de vraiment d'îlots, pour qu'il puisse y avoir une présence du végétal qui soit forte, mais qui soit affirmée sur le quartier.
Ok, très bien. Merci. Et puis pour continuer, on va écouter notre ami Raphaël qui nous propose justement une petite pastille sur les zones pavillonnaires.
En s'intéressant à la presqu'île de Caen, on s'intéresse à une certaine forme d'agrandissement de la ville qui conquiert un nouveau territoire qui n'était pas urbanisé jusque-là, avec du collectif, avec des services, avec vraiment l'idée de vivre en commun, ensemble. Il y a aussi une autre vision de l'agrandissement de la ville, c'est les lotissements pavillonnaires, les campagnes urbaines, comme les appelle un hors-série de l'émission Programme B de Binge Audio. Hors-série en 6 épisodes, donc qui explore ces logements pavillonnaires qui font partie du paysage français, un élément incontournable aujourd'hui à mi-chemin entre la ville, la campagne, pas toujours réussi sur le plan architectural. Ça, justement, le débat est exploré dans ce podcast. Et c'est vraiment depuis une quarantaine d'années que c'est développé. C'est l'incarnation au départ vraiment du rêve français d'avoir un chez soi, mais il y a des paradoxes derrière ça sur l'architecture qui est souvent similaire sur un habitat qui peut parfois être hors sol. Du coup, la série de podcasts essaye de comprendre cette histoire, les histoires individuelles de ce qu'il y a derrière, avec la rencontre d'habitants, d'experts sur le sujet. Tout ça commence pendant l'entre-deux-guerres, il y a la loi Louchère qui est votée et du coup favorise la construction de maisons individuelles avec les aides de l'État. Mais c'est vraiment après, à la fin des 30 Glorieuses, qu'il y a une accélération. Après-guerre, il y a beaucoup d'habitats collectifs, de HLM qui est construit. Mais tout le monde n'est pas forcément très content du résultat ni de la vie en HLM. Du coup, il y a une réaction, y compris gouvernementale, qui encourage le fait de consommer du territoire pour construire du logement, comme on l'entend dans ce reportage retrouvé dans les archives par les auteurs du podcast.
Surgissant de la verdure d'un jardin du boulevard Saint-Germain, celui du ministère de l'Équipement, ces maisons individuelles, ce sont les maquettes sélectionnées par le jury. De 3 à 5 pièces, jamais plus d'un étage, toujours un bout de pelouse ou de jardin. Groupées le long de rues qui serpentent, autour d'une place centrale, ces maisons, ces cités, correspondent-elles aux rêves de beaucoup de Français qui veulent échapper aux grands ensembles ? Le ministre de l'Équipement, M. Albin Chalandon, en est persuadé et il affirme même que cela ne revient pas plus cher que de construire des appartements.
Lorsque l'on fait la balance du coût des équipements pour un village de maisons individuelles, ou pour des immeubles collectifs, eh bien on constate qu'il n'y a pratiquement pas de différence de prix.
Dans cette série de podcasts, on s'intéresse aussi à l'architecture des maisons de ces lotissements pavillonnaires, comprendre pourquoi elles se ressemblent tous. Il y a l'aspiration, bien sûr, à la maison individuelle qui est évoquée, et quelque part, quelle que soit la maison, même si elle est standardisée, le marketing des promoteurs pour vendre ce qui va susciter justement ce rêve, et puis l'industrialisation de la construction de tous ces logements. Un autre aspect qui est évoqué dans le podcast, c'est l'urbanisme et le rôle central des maires qui détiennent cette compétence au niveau local. La plupart sont en fait engagés, on nous explique, dans une course au niveau local pour construire des nouveaux logements, pour garder des habitants, leurs impôts locaux et les services publics qui vont avec, tout en jouant avec les contraintes de parfois construire sur des terres agricoles, de respecter le patrimoine, la tradition, l'environnement. Donc en fait, à travers le podcast, on voit qu'il y a vraiment un mouvement qui continue de cette urbanisation de nos campagnes juste à côté des villes avec les lotissements pavillonnaires. Ce mouvement incarne un rêve français qui n'est pas mort et interroge sur le succès des opérations urbaines de nouveaux territoires avec du collectif, comme ici sur la Presqu'île, aussi bien pensé que ces opérations soient.
Vous souhaitez réagir peut-être à ce qu'on vient d'entendre ?
On est effectivement dans une autre logique d'urbanisation aujourd'hui. Alors je ne sais pas si réfléchi en coût global, le modèle pavillonnaire d'extension urbaine est plus économique et moins cher que le modèle plus dense. En revanche, ce qui était intéressant, c'est qu'il était évoqué le modèle pavillonnaire et individuel pour échapper aux grands ensembles. Et effectivement, tout l'enjeu, je pense, pour nos collectivités, c'est de considérer qu'il n'existe pas que deux modèles urbains et les grands ensembles et le pavillonnaire, mais qu'on a bien toute une gamme qui doit se développer, du pavillonnaire plus dense, de la maison de ville, qui reste du pavillonnaire, mais qui va proposer une densité plus importante que les lotissements des années 80. On peut avoir de l'intermédiaire également, qui va cranter encore un peu plus la densité. Et puis, on peut avoir du collectif un peu plus important, sans qu'il soit forcément marqué par cette période de construction des grands ensembles, si on amène un espace public très qualitatif, si on y amène des services en proximité, si on y amène aussi une architecture sur le bâti. Donc, le podcast là nous oppose un petit peu ces deux modèles, et puis le fait qu'on se réfugie finalement dans le pavillon individuel en échappant aux grands ensembles, je pense qu'un des gros enjeux, c'est justement d'essayer de voir une pluralité de modes d'habiter, et c'est pour ça que le projet Presqu'île prévoit effectivement un peu de pavillonnaire, de l'intermédiaire et de manière beaucoup plus importante de l'habitat collectif. Quand j'étais en CM2, on m'apprenait qu'en France on était 55 millions. Aujourd'hui, on est 65 millions. On ne vit pas de la même manière à 65 millions. On ne vivra pas demain de la même manière à 75 millions qu'on peut vivre à 40, à 45 ou à 55 millions d'habitants dans notre pays. Et à partir du moment où on veut arrêter le grignotage des terres agricoles et la triste et dramatique actualité internationale remet sur le devant de la pile les enjeux de l'autonomie énergétique, mais alimentaire. On répond à cet enjeu-là quand on parle de stopper le grignotage de terres agricoles. Donc il faut effectivement se questionner sur ce que peut être une densité heureuse sur un centre urbain. Ça ne sera pas la même densité heureuse que sur un village qui a connu une périurbanisation avec des lotissements. Je pense que le modèle de lotissement doit et peut aussi se réinventer avec beaucoup de qualité demain. La question d'une densification du lotissement pavillonnaire est un enjeu, je pense, assez important aussi. Et je pense qu'il peut trouver quelque chose, un modèle intéressant, quelque chose qui attire aujourd'hui. Il ne s'agit pas de taper sur ce modèle qui a été construit à une époque où il semblait complètement logique et où les préoccupations ni des habitants ni des pouvoirs publics n'étaient pas celles d'aujourd'hui. En revanche, c'est intéressant d'essayer de regarder devant et de voir comment, de ce modèle-là, on peut essayer d'inventer un modèle qui va répondre à certes l'enjeu d'une densification tout en gardant un caractère pavillonnaire. Et je pense que là, il y a des pistes intéressantes à explorer.
Ok, très bien, merci. Et du coup, vous parliez tout à l'heure de, justement de l'aspect culturel. Comment vous comptez justement inclure les acteurs culturels de la Presqu'île dans le projet? Notamment, on a entendu parler du PTCA, dont fait partie Raphaël, de qui vous avez entendu la chronique.
Oui, il y en a un milieu associatif et culturel essentiellement très riche sur la Presqu'île. On a plusieurs enjeux communs. On a à la fois un enjeu de ce qu'on peut appeler d'activation de la Presqu'île, comment on arrive à faire vivre ce quartier pour qu'il commence à changer de visage avant même que les premières constructions y arrivent, comment on amène les habitants de Caen ou de la communauté urbaine à venir pratiquer ce quartier. Ça, c'est un enjeu à temporalité très proche. Et puis, on a aussi l'intégration d'une offre culturelle pérenne dans ce quartier-là. Quand on évoque un quartier qui se veut mixte, on parle évidemment d'habitat, on parle évidemment de bureaux, on peut parler de commerce, mais on parle aussi clairement d'une offre qui va être une offre qui permet aux habitants de s'épanouir, notamment à travers la culture, qui peut être évidemment et qui est évidemment un des éléments forts d'épanouissement. Donc on a eu plusieurs rencontres avec les acteurs associatifs. Le PTCA s'est formé et regroupe différents acteurs. On va être amené à nouveau à échanger avec le PTCA et aussi avec ces différentes composantes, ces différents acteurs, le dôme, le pavillon, le bazar Naum, les ateliers intermédiaires, etc. Donc on a rencontré tous ces acteurs. On va poursuivre nos rencontres à la fois pour qu'on puisse expliquer nos enjeux urbains, que les acteurs associatifs nous expliquent aussi leurs enjeux, comment eux ils perçoivent ce secteur-là aujourd'hui, demain, comment ils souhaitent être partie prenante, comment ils souhaitent s'intégrer dans le projet. Et puis c'est la rencontre de ces impératifs qui nous permettra de cheminer vers des possibilités de travail partenarial sur de l'activation ou d'intégration d'activités culturelle pérenne sur ce territoire, parce que c'est essentiel pour la Presqu'île, c'est essentiel pour les Canets, c'est essentiel pour les habitants de la communauté urbaine, parce qu'on a des acteurs culturels qui bien évidemment dans leur rayonnement dépassent le quartier sur lequel ils sont installés. J'étais au Dôme hier soir et Bruno Dosseur évoquait le PTCA avec un potentiel d'accueil, si ma mémoire est bonne et si je ne me trompe pas dans les chiffres, de 500 000 personnes par an, tous les acteurs du PTCA réunis. Mmh. Donc c'est effectivement, on est sur des acteurs qui par la qualité de ce qui est proposé, leur engagement associatif et personnel pour ceux qui sont engagés dans ces associations-là, attirent du monde sur la Presqu'île. Donc je pense vraiment qu'il faut qu'on arrive à trouver à travers nos échanges un chemin qui va nous permettre à la fois d'activer cette Presqu'île. Quand on parle d'activer, ça va être dans les 5-10 ans à venir, hein, à partir d'aujourd'hui, puisqu'on est sur un projet, on ne l'a pas encore dit, mais qui va se construire sur 20 à 25 ans. Donc on est sur un projet de long terme et qui pourra d'ailleurs s'adapter par rapport à tout ce qu'on a évoqué là. Je pense que c'est par les échanges qu'on a pu avoir et qu'on aura encore qu'on va réussir à cheminer. On a un enjeu majeur, je pense. On parle beaucoup de ville intelligente dans les concepts urbains et notamment à travers des solutions technologiques, alors qui sont intéressants. Je pense qu'on a un enjeu majeur aussi, c'est de créer la ville qui rend le citoyen intelligent. Il ne faut pas que la ville intelligente se fasse au détriment du citoyen intelligent. Mmh. Et quand on dit ça, évidemment, on pense immédiatement à tout ce qui va permettre d'élever l'habitant, d'élever le citoyen dans son ouverture d'esprit, dans sa connaissance de certains sujets. C'est ça l'épanouissement. Et le travail avec les acteurs culturels, en ce sens, est un impératif.
Très bien. Et par rapport, du coup, justement, typiquement à des lieux culturels qui ne font pas forcément partie du PTCA, comme la pétroleuse, par exemple, tout ça, quels choix ont été faits par rapport à ça?
Aujourd'hui, on n'a pas définitivement arrêté de choix sur des intégrations de tel ou tel acteur. Encore une fois, on est sur un projet qui va s'étaler sur 20 à 25 ans. L'objectif, c'est qu'on puisse travailler avec tous les acteurs qui souhaitent travailler sur ce projet-là. Alors, on a un interlocuteur qui aujourd'hui est le PTCA. Pour autant, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a ces différents membres qui sont des interlocuteurs également. Donc l'objectif, c'est qu'on arrive à cheminer pour qu'on puisse avoir une présence, une offre culturelle qui soit diverse et qui nous permette clairement de proposer une expérience Presqu'île. À travers tout ce qu'on a pu évoquer, l'enjeu majeur de ce projet urbain, c'est aussi de proposer aux habitants une manière de vivre. le 21e siècle. Et donc l'enjeu qu'on peut avoir est essentiellement avec les acteurs culturels, c'est de pouvoir travailler ce qui va permettre aux habitants de trouver sur cette presqu'île de quoi s'épanouir.
Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions dans cette émission dédiée à la presqu'île. Et nous allons à présent...
Merci à vous.
Je vous en prie. Et nous allons à présent nous accorder une deuxième pause musicale par notre ami Pierre, qui va d'ailleurs cette fois nous parler d'un de mes groupes préférés. Hâte d'entendre ça, Pierre, à toi.
Et oui, pour cette deuxième partie, j'avais envie de vous présenter donc deux artistes bien connus du groupe Disclosure. Donc Disclosure, c'est un groupe de musique électronique qui s'est lancé en 2010 via le réseau social le plus connu de l'époque, qui a lancé des centaines et des centaines d'artistes. Je veux bien sûr parler de MySpace. Et les deux, donc originaires du sud de Londres, les frères Guy et Howard Lawrence, se lancent en 2010, et c'est juste 2 ans plus tard que leur carrière vraiment décolle avec leur premier succès qui s'appelle Latch, qui est interprété par Sam Smith. Et le titre vraiment frôlera le top 10 britannique en se classant en 11e position, avec en plus un disque d'or. Et la musique de Disclosure est assez intéressante parce qu'elle comprend des éléments d'électronique, dance music et de musique pop. Et le groupe enregistre en fait des instruments et des titres interprétés par des chanteurs invités, contrairement en fait à l'habituelle suite montée et drop. Donc drop, la définition montée du volume des instruments ambiants, souvent sans beat, qui revient de façon directe lors du départ brusque de la ligne basse appelée drop. Mais cette définition est bien compliquée, je trouve. Donc, petit exemple de qu'est-ce qu'un drop ? Donc là, on a cette montée, et là, on a le drop. Et voilà en fait ce qu'on trouve dans la plupart des morceaux de musique en fait apparentés à la musique électronique. La leur en fait a davantage tendance à se dessiner plutôt en couplets instrumentaux, se rapprochant en fait d'une structure comparable à celle de la musique pop. Donc vraiment ils ont leur style à eux qui est vraiment super sympa et qui plaît en fait à un public de tout âge. Et je vous ai sélectionné un titre que j'apprécie beaucoup, ça s'appelle Tondo, c'est sorti en 2020. Et pour ce nouveau morceau, en fait, Disclosure s'est offert des samples de Tondo Mba, donc un titre de l'artiste camerounais qui s'appelle Echo Roosevelt, qui a été repris également par un artiste que j'adore. J'ai écouté, je me suis dit, mais je la connais cette musique. Et ça a été repris également par Guts avec l'album Straight From The Deck que j'adore, que vraiment j'adore. Donc je vous quitte en beauté sur ce super titre de Disclosure et je vous dis, en bon normand que je suis, à bientôt et boujou.
Et vous écoutez bien Bonjour Turbine dans cette émission dédiée à la presqu'île de Caen. Et on vient de s'écouter le titre Tondo de Disclosure. Et donc je vous propose donc pour clore cette émission en douceur avec notre ami Alain qui va nous présenter l'agenda culturel dans sa chronique. C'est où ?
C'est qui ?
C'est quoi ?
C'est quand ? Alors aujourd'hui, ça va être une chronique qui va parler beaucoup de livres. D'abord de BD. Le nouvel album BD de Jérôme Félix, à qui on doit L'Or du bout du monde, jusqu'au dernier, Arsène Lupin, L'aiguille creuse, L'héritage du diable, apparaître courant avril. C'est Petit rien qui change tout. Coécrit avec Alain Janol et dessiné par Dominique Lidouin, Léjard. Il s'agit de l'adaptation du moyen-métrage Puzzle qui avait été tourné à Blainville-sur-Orne lorsqu'il y travaillait. Je vous livre ici le résumé de l'éditeur, en espérant qu'il vous donnera envie de passer un petit moment avec tous les personnages. Une petite commune normande dont le maire cherche désespérément une idée pour l'animation de sa fête annuelle. Une jolie babysitter, tiraillée entre deux soupirants, une grand-mère qui joue les entremetteuses, un instituteur amoureux, un beau skipper appelé par le large et toute une population mobilisée pour un projet fou, réaliser le plus grand puzzle du monde. Une comédie lumineuse, jouissive et légère, toute simple, mais qui change tout. Donc ça, je vais citer ce qui a été écrit par l'éditeur. Toujours dans la BD, le 2 et 3 avril prochain, salle de la Fonderie à Hérouville, Saint-Clair, 19e émission des Planches et des Vaches, le festival de BD, bien connu. Alors l'entrée est restée encore une fois cette année à 2 euros, donc il ne faut pas s'en priver, parce que cette année, on pourra découvrir 42 auteurs et dessinateurs, et parmi eux, il y a du lourd. Je vous en cite quelques-uns. Alors, un de mes préférés, Régis Loisel, le dessinateur de La quête de l'oiseau du temps, avec Serge Le Tendre au scénario, ou Peter Pan, où il a dessiné et fait le scénario. Un autre auteur que j'aime beaucoup, Arnaud Floch, par exemple, Dieu n'habite pas à la Havane, où il a dessiné, et le scénario de Véronique Grissot, ou Mojo Hand, où il a fait le scénario et le dessin, S'en fout la mort, scénario et dessin, son dernier album en 2022. Un scénariste très connu dans la région, Jean-Blaise Gian, à qui l'on doit Meurtre au Mont-Saint-Michel, avec Marie Jaffredo au dessin, Caen 1 et 2 de Guillaume le Conquérant à nos jours en passant par Malherbe, Normandie juin 44, qui est une série qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies et au Mémorial. Le président du festival, Thibaut de Rochebrune, Les Filles du Soleil, La Geste des Chevaliers Dragons, ça c'est du lourd aussi. Un dessinateur local, Cyril Ternon, qui a fait le Banquier du Reich, qu'il a dessiné avec Pierre Boisserie et Philippe Guillaume au scénario. Et aussi, on lui doit Placéville au dessin, toujours, avec Christophe Beck au scénario. Encore un du lourd, Olivier Martin, L'incroyable histoire des animaux, où il était au dessin et au scénario, Karine Lou Matignon. Rendez-vous avec X, Auschwitz 1940, l'affaire Pilecki, où il était au dessin, avec Aurélien Ducoudray au scénario. Et alors là, qui va ravir tous les amoureux de Goldorak, la team de Goldorak va être là, donc Bajram, Cossu, Guillot et Santenac. Ils sont tellement attendus que les dédicaces se feront sur tirage au sort, tellement ils attendent de monde pour les dédicaces. Alors les dédicaces... comme les autres années, une seule dédicace par auteur, par jour et par BD. Et les sacs à dos et les sacs en plastique ne sont pas des personnes, donc on ne peut pas les mettre pour garder sa place. Parce que si vous êtes déjà allé dans un festival de BD, c'est ouf, parce que les dessinateurs font des illustrations sur les pages de garde. C'est magnifique, mais ça prend du temps. Et vous avez des gens qui arrivent avec une dizaine ou une quinzaine d'albums et qui font tous les dessinateurs pour avoir chacun leur dédicace. Donc, des fois, on est très, très longtemps à attendre. Donc là, ils ont mis des règles qui peuvent paraître un peu strictes, mais c'est comme ça. Vous pourrez avoir toutes les références pour ce festival à la suite
dans la description.
Et il y a aussi eu un article, ce jour où on enregistre, dans Ouest France, qui parle du festival. Toujours dans le livre, mais différent, Ali Mec. à l'abbaye d'Ardennes, à Saint-Germain-la-Blancherde, en partenariat avec la librairie Eureka Street. Le mardi 5 avril à 20h à l'auditorium, grand soir, Annette Becker, dans le cycle Écrire la guerre. Et pour ceux qui ont une petite faim, bar et restauration légère à partir de 19h. Toujours à l'IMEC. Donc, pour se présenter cet auteur, peut-on présenter l'extrême violence ? Peut-on exposer les temps de fureur et dire les dévastations physiques et mentales ? Avec l'immontrable, l'historienne Annette Becker l'affirme. Rejetant l'intransmissible, elle postule que l'horreur et l'effroi sont non seulement représentables, mais historisables. L'art s'offre d'autres possibilités de mesurer les événements traumatiques. C'est pourquoi elle revendique la nécessité de croiser sciences sociales et art pour analyser, comprendre et restituer ces périodes et phénomènes historiques. La rencontre sera animée par François Borde. Et toujours à l'IMEC, donc le jeudi 28 avril, avec toujours une restauration légère au bar à partir de 19h, dans l'auditorium, grand soir, Jean-Michel Espitalier, toujours dans le cycle « Écrire la guerre ». Qu'est-ce qu'un tueur ? Parce que le crime contre l'humanité est toujours et partout le même, Jean-Michel Espitalier décrit minutieusement dans son dernier livre « Tueur, les mécanismes de la violence ». À partir d'une considérable documentation, l'écrivain s'attache aux crimes de guerre, gestes terrifiants, rétifs à toute explication psychologique ou anthropologique, paroles de bourreau, extraits de discours, entretiens, confessions de criminels de guerre. En révélant ces deux facettes de la banalité du mal, l'auteur parvient à nommer l'innommable. La rencontre sera animée par Nathalie Léger. Et ça va être terriblement d'actualité avec ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Alors là, on va changer d'art. On va aller au Musée des Beaux-Arts dans l'enceinte du château de Caen. À partir du samedi 2 avril au dimanche 4 septembre, exposition de Gérard Tracandi dans le cadre de Cycle Résonance. Gérard Tracandi explore la pratique picturale sans cesser d'interroger une pluralité de techniques et de supports, depuis la photographie, la gravure, le dessin jusqu'à la céramique. Il est l'artiste du contrepoint, celui qui entretisse d'une pièce à l'autre le figuratif et le non figuratif, les petits dessins et les tableaux monumentaux, une perception intuitive du réel et une exploration des matériaux dans l'atelier. Alors, j'ai cité ce qu'on peut trouver dans la brochure du Musée des Beaux-Arts que vous pouvez retrouver sur leur site. Il y aura même une rencontre avec l'artiste le dimanche 3 avril à 11h et ça sera gratuit, puisque c'est le premier week-end du mois, et tous les premiers week-ends du mois, au château de Caen, le musée des Beaux-Arts et le musée de Normandie sont gratuits. Pour finir, un rappel, les GEMA, les Journées européennes des métiers d'art 2022, qui se dérouleront du 28 mars au 3 avril sur le thème des mains à l'unisson, je vous en avais parlé la dernière fois, vous pouvez voir la programmation sur le site des GEMA, pareil, on va vous mettre l'adresse mail. Et une petite recommandation, la poterie de Bavant sur la route de Cabourg. Il va y avoir beaucoup d'artistes qui vont être là, enfin d'artisans d'art, ceux qui sont là en permanence et d'autres qui vont venir. En plus, l'endroit, il est très beau. Et dans les jardins, il y a des paons et d'autres volatiles qui sont magnifiques. Donc, en plus, il y a, en dehors des artisans, il y aura aussi des choses agréables à l'œil à voir dans le parc. Et pour finir, et je vous en reparlerai plus tard, mais je vous l'annonce, un nouveau spectacle de Monsieur Charlie, qu'on connaît bien ici, est en cours de préparation. Ça s'appellera Minute Papillon, et il y aura Monsieur Charlie, Pauline Lérelou, qui est une danseuse, Mathieu Tanguy, un musicien, et Anthony Gandet, un vidéaste. Je vous donnerai plein d'informations dès que je les aurai, mais il va être en résidence au Sillon en fin de mois. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Voilà, c'était un peu long, mais c'est fini. Et puis,
mais non, mais c'est positif, il y a plein de choses.
Bah oui, il y a plein de choses. La prochaine fois, je serai beaucoup plus dans la musique.
D'accord, ok. Bah, on s'en rappellera. Merci beaucoup, Alain. Et puis, l'émission touche à sa fin. Comme d'habitude, on n'oublie pas de vous mettre à disposition toutes les références et les liens cités dans cette émission. Et on remercie Nicolas Joyot, qui était notre invité du jour, ainsi que nos chroniqueurs, Alain et Pierre, et Alixia, qui était à la technique aujourd'hui. Salut à tous.
Salut,
à
vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.